Pierre Ménat, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes diplomate, vous êtes un ancien ambassadeur de France. Vous avez notamment officié en Roumanie et en Pologne, évidemment des pays qui sont en première ligne pour le conflit actuel. Vous dites d'ailleurs dans votre livre « L'Union européenne et la guerre », publié aux éditions Pépère l'Harmattan, livre passionnant, clair, didactique, pas du tout manichéen. Vous dites que nous avons peut-être manqué quelque chose à la fin des années 90, au moment de l'élargissement de l'OTAN. Nous avons manqué peut-être un pacte de confiance avec la Russie.
Oui, c'est vrai. D'abord, je vous remercie pour votre accueil. Oui, c'est vrai. Je pense que il y avait eu en 91 un accord verbal entre les Américains et les Russes, enfin, Gorbatchev, pour dire normalement on ne va pas élargir l'OTAN. Donc, mais cet accord qui était transitoire en vérité a été très vite dépassé. Puisque on s'est aperçu que les pays d'Europe centrale et orientale, qui étaient sous la domination, qui étaient des anciens du pacte de Varsovie, voire même des anciens de l'URSS,
les Baltes. Les Baltes, ils voulaient adhérer à l'OTAN.
Ils voulaient ça avant tout.
C'est donc, l'assurance vie pour eux.
Donc il y a eu des discussions avec la Russie, qui ont été menées par les États-Unis, par la France. Le président Chirac lui-même en a beaucoup, beaucoup parlé avec Boris Yeltsin. Et on est parvenu à un accord. Et là, c'est là où. Dans le discours de Poutine, il y a une inexactitude volontaire, bien sûr. C'est que il dit, on n'a jamais donné notre accord. Si, il y a eu un accord en 97, puisqu'ils sont, on a créé le partenariat OTAN-Russie. Et dire voilà, ils entrent, mais nous entretenons un dialogue. En revanche, par la suite, c'est vrai que ce dialogue n'a pas été assez nourri, donc à plusieurs étapes. Il y a eu l'affaire de Yougoslavie, notamment du Kosovo, qui les a beaucoup marqués, si vous voulez.
C'était les orthodoxes aussi, comme eux, qui étaient concernés.
Mais c'était sans autorisation de l'ONU.
C'était un mandat de l'OTAN, une action de l'OTAN.
Oui, mais alors, un mandat de l'OTAN pour les Russes, si vous voyez, c'est pas vraiment une garantie. Donc, il n'y a jamais eu, parce qu'il y avait un veto à l'ONU. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'épisodes qui ont renforcé cette méfiance. Il y a eu l'affaire de l'Irak, bon, mais ça, c'est, heureusement, si je puis dire, il y a eu une bonne coopération en 2003 entre la France et la Russie. Donc la Russie n'était pas isolée, elle était en accord avec l'Allemagne et la France.
Qui ne voulait pas intervenir. Et puis le dernier épisode, c'est l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Nous sommes en 2013, ça crée la crise que l'on fait en Ukraine. Il y a eu la pression des pays de l'Est sur l'Union européenne pour cela. Et vous dites dans votre livre que Angela Merkel et François Hollande n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait faire pour les rassurer Poutine.
Oui, je crois que quand on a parlé de l'accord d'association Union européenne-Ukraine, qui a été le déclenchement de tous les problèmes, bon, il y avait des problèmes évidemment sous-jacents, mais on en reparlera, c'était le déclenchement de tous les problèmes. Je pense que l'Union européenne, à l'époque, aurait pu peut-être discuter davantage avec la Russie. Et quand je dis l'Union européenne, c'est aussi bien les institutions européennes, mais vous savez qu'elles sont devenues, et à ce moment-là, elles venaient de devenir très complexes avec le traité de Lisbonne, et c'est aussi les dirigeants européens, effectivement, François Hollande et Angela Merkel. Alors, ils se sont impliqués par la suite, au moment de Minsk, des accords de Minsk, ils se sont impliqués, mais il n'y a pas eu d'action préventive, c'est ça que je dis, et je pense qu'on aurait pu, peut-être sans garantie, je ne sais pas, ça aurait peut-être rien changé, mais je pense qu'on aurait pu plus dialoguer avec la Russie.
Nous en voici aujourd'hui à un état de guerre. Évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais vous, avec votre expérience diplomatique, est-ce que vous avez une idée de ce que Poutine pourrait faire, non seulement militairement sur le terrain, mais pour reprendre le dialogue diplomatique? Il est conscient qu'il faudra un jour en passer par là.
Oui, mais le temps n'est pas venu, comme vous le dites. Aujourd'hui, les parties ne sont pas prêtes à se mettre à une table de négociation. Ce qui est assez curieux, c'est qu'elles se sont mises à la table de négociation tout à fait au début du conflit, vous savez, sous l'égide de la Turquie. Et il y avait eu un certain nombre de progrès, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce qu'aucune des deux parties ne veut lâcher sur le plan militaire. L'Ukraine, qui est en difficulté actuellement dans le Donbass, se dit qu'elle va peut-être mener des contre-offensives, une ou plusieurs contre-offensives. Et la Russie poursuit ses objectifs qu'elle n'a jamais vraiment énoncés très clairement, mais qui aujourd'hui, en tout cas, au minimum, ce serait d'occuper réellement les territoires qu'ils ont annexés. Donc ils ont beaucoup à faire, hein, parce que dans chacune des, à part Lugansk où ils sont quasiment à 95%, dans les autres ils sont à 60-70%. Donc après, est-ce qu'une fois que le Donbass aura été conquis, est-ce qu'ils sont ces gens, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que le climat n'est pas aujourd'hui à la négociation. Il le redeviendra peut-être un jour, et là, à ce moment-là, il faut être prêt, il faut s'y préparer. Et moi, je crois que dans une telle perspective, tous les acteurs doivent y contribuer. Moi, je trouve positif, personnellement, que la Chine
s'y impose un plan.
Bon, alors, c'est un plan, on va dire que ce soit un plan pour l'instant, mais disons que c'est une posture, ce sont des idées. Et la première de ces idées, ce qui est intéressant, c'est le respect de l'intégrité territoriale. Donc, c'est ce qui satisfait l'Ukraine, donc normalement. Alors évidemment, il y a d'autres idées comme la fin des sanctions, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais il me semble qu'il faut préparer déjà le terrain de ces négociations, si vous voulez, on peut y revenir.
Oui, l'Union européenne peut-elle avoir une place comme organisatrice de ces négociations?
Ce serait très souhaitable. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile parce que l'Union européenne a adopté une position, je ne la conteste pas, hein, donc une position qui était quand même très tranchée. Qui est une position de condamnation, d'aide forte à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, elle n'est pas très bien placée pour être un peu l'aspiratrice ou l'organisatrice pour parler. Mais elle doit y participer. Parce que l'Union européenne, après la guerre, aura beaucoup à faire en matière de reconstruction et puis en matière d'adhésion, puisque la candidature de l'Ukraine a été acceptée dans son principe.
On va y revenir parce que ce néo-élargissement pose des problèmes. Bon. Un dernier point, est-ce que vous l'évoquez, page 72, évincer la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies est une possibilité? C'est l'URSS, hein, qui est officiellement membre.
Alors juridiquement, certains y ont pensé juridiquement, parce qu'effectivement, vous avez raison, dans la charte de l'ONU, d'ailleurs, dans l'article 23 qui parle des membres permanents du Conseil de sécurité, cite la République de Chine, et non pas la République populaire
donc
de Chine.
Donc Taïwan, historiquement.
Et l'URSS. Donc, alors, comment ça s'est réglé? En 71, la République de Chine, en fait, a été remplacée par la République populaire de Chine par le biais de la vérification des pouvoirs. Vous savez, au début de l'Assemblée générale, il y a une vérification des pouvoirs. Et on a décidé cette année-là, donc en 71, que c'était la RPC qui avait les pouvoirs.
On change de titre.
Alors, la Russie, en revanche, c'est plus compliqué, parce que là, c'était carrément un autre État. C'est un État qui n'existe plus, l'URSS. Et en fait, ça s'est réglé de façon extraordinairement discrète. En fait, Yeltsin a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU, qui était encore quelques jours Thérèse des Cuellar, en décembre 91, pour lui dire, voilà, on a décidé que la Fédération de Russie était l'État continuateur de l'URSS, donc je vous prie de remplacer, partout où on mentionne l'URSS, de mettre les mots Fédération de Russie. Voilà, c'est comme ça que c'est réglé. Donc à la limite, si vous voulez, le parallélisme des formes pourrait être utilisé, mais très honnêtement, je pense que ce serait vraiment on arrivait aux extrêmes là. Si priver la Russie de siège de membre permanent, ce serait pas une bonne chose, parce qu'il faut lui laisser quand même des enceintes de dialogue.
Alors parlons de l'Europe, disons de l'Union européenne. Le 29 août dernier, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a évoqué une Europe élargie à 30 voire 36 membres. Élargissement ou dilution?
L'élargissement, si vous voulez, vous savez que dans l'Union européenne, dans la construction européenne, il y a toujours eu ce dilemme entre approfondissement et élargissement. Et dans un premier temps, on avait peut-être fait un parallèle, assuré un équilibre entre les deux. Cet équilibre s'est rompu lors du grand élargissement, parce qu'on n'a pas pu approfondir avant, ça n'a pas marché.
On est en 2004, il y a 10 pays qui rentrent.
2004, mais avant il y a eu 97, si vous voulez, donc, parce que l'idée était de dire, avant cet élargissement, il faudra vraiment changer les institutions, et ça n'avait pas marché. Donc, ça n'avait pas marché, ça a débouché sur le traité de Lisbonne, dont on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas, qui n'était pas le grand approfondissement qu'on souhaitait. Donc on a 12 pays de plus, entre-temps le Royaume-Uni est parti, donc on est 27. Et
passer à 36.
Alors déjà à 27, il y a eu beaucoup d'effets. Quand on regardait le passage de 12, si vous voulez, parce qu'en 95 on était encore à 12, à 27, il y a eu des effets très néfastes dans le processus de décision, dans l'équilibre général de l'Union européenne, et aussi financièrement, parce que le budget il y a eu un certain nombre de pays qui ont dit on va faire cet élargissement à budget constant. Alors maintenant, si on se lance dans un nouvel élargissement, d'abord, il ne sera pas limité à l'Ukraine, parce que certains pays, les Balkans, diront bah, écoutez, nous, on était là avant, et donc il y a toujours un paquet. Et deuxièmement, il sera encore plus coûteux, et il sera encore plus compliqué en termes de processus de décision. Faut, si jamais, n'oublie pas qu'il y a un autre candidat qui est la Turquie.
La Turquie, toujours.
Bon, la Turquie serait le premier pays en nombre de voix de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, évidemment, tout le monde pense que l'élargissement à la Turquie est bloqué. Parce que ça a été bloqué en 2019 en raison de leur attitude. Mais imaginez, après tout, il y a des élections en Turquie. Imaginez
Erdogan peut perdre la présidentielle, voilà, et peut redémarrer.
Auquel cas, ils diront pourquoi l'Ukraine n'est pas nous.
L'approfondissement, ça pourrait commencer par la vraie défense européenne. Vous plaidez pour un traité pour bâtir une union politique et de sécurité. Oui. Qui serait dans ce traité?
Ceux qui le souhaiteraient. Non, je parle du principe. D'abord, il ne faut pas complètement rompre les ponts. Les pays qui signeraient un tel traité ne romperaient pas les ponts avec l'Union européenne. Il ne faut pas partir sur des idées de rupture totale. Mais ce qu'on a fait avec l'euro, ce qu'on a fait avec la règle d'or en matière budgétaire, un certain nombre de pays disent nous, on veut faire davantage. Moi, ce que je dis, c'est que c'est très difficile dans le cadre des institutions actuelles, qui sont très verrouillées. Tout le passage à la défense européenne ou à la politique étrangère nécessite l'unanimité. Et en plus, sur la défense, le traité, les articles 42 à 47 du traité sur l'Union européenne, verrouillent beaucoup les choses dans le sens d'une gestion de crise et pas de la défense. Donc je pense que juridiquement, il faudrait qu'un certain nombre d'États, évidemment, il faudrait qu'il y ait la France et l'Allemagne, mais d'autres aussi, comme la Belgique, comme moi je pense qu'il faut associer l'Espagne, je pense qu'il faudrait associer très certainement l'Italie.
Ouais. Pierre Ménat, l'Union Européenne et la guerre, c'est chez l'Armatan édition Pépère. Il y a beaucoup d'autres sujets abordés évidemment dans c'est un livre passionnant. Merci
et merci beaucoup de votre invitation.
Merci beaucoup messieurs, et demain Christophe Barbier, votre invité, c'est Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière, dirigeant de JCBC Conseil.
Radio J, retrouvez le Barbier.